Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
La philosophie, c'est une certaine manière d'être.
Ce qui me préoccupait, c'était le problème du rapport entre l'histoire et le vrai.
Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. L'occasion d'entendre les travaux des philosophes contemporains, de déceler la philosophie là où vous ne l'attendez pas, et de tendre le micro à la pensée en train de se faire. L'équipe des Nouveaux Chemins se joint à moi pour vous saluer. Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi et Lucie Tardy. Avec Mydia Portis-Guérin à la réalisation cette semaine, Philippe Palares à la prise de son. Et celle qui, à 10h51, vous donnera envie de lire un livre qui vient de paraître en battant de ses ailes de papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Aujourd'hui, l'actualité est un mystère, pour vous, comme tous les jours peut-être, pour moi en tout cas. Et oui, une fois par mois, je reçois un invité dont je découvre l'identité avec vous, chers auditeurs, au moment d'entrer en studio, ce qui me met dans la position de découvrir le livre de l'invité en temps réel et donc en même temps que vous, de l'autre côté du poste. Et donc, me voici au 5e étage de la maison de Radio France et je suis en train de me diriger vers le studio 151, où m'attend mon invité, dont je ne sais rien. Peut-être ai-je déjà discuté avec lui autour d'un micro, peut-être vais-je le rencontrer pour la première fois, qui sait. J'ouvre une première porte, un sas qui insonorise le micro, une deuxième porte. Bonjour Philippe et Mydia. Et je m'avance en studio où je vois simplement le dos de mon invité, ce qui ne révélerait en rien son identité. Et Géraldine Mosna-Savoie, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Je vous salue. Bonjour. Et vous avez des cadeaux pour moi.
C'est le corpus delicti.
Oula, merci beaucoup. Et donc, je lis votre nom sur les livres. Vous êtes bien Jean-Michel Salanskis ?
Salanski.
Salanski. On s'est déjà rencontrés, donc je sais que c'est bien vous. C'est oui. Pas une imposture. À vos côtés se trouve Géraldine.
Bonjour Adèle.
On se retrouve à 10h51.
On se retrouve tout à fait pour parler d'un auteur que vous aimez beaucoup, Ivan Gontcharov, avec des nouvelles qui sont parues aux éditions de l'Arme.
Eh bien, je me réjouis. À tout à l'heure, Géraldine.
À tout à l'heure.
Alors, Jean-Michel Salanski, vous m'avez donné 3 livres.
Oui.
C'est une triple actualité qui vous conduit ici.
Les hasards.
Les hasards. Alors, je commence par lequel ? Le plus petit, Crépuscule du théorique chez Encre Marine, dans la collection À présent, qui parle du monstre.
Ça parle du monstre, oui, c'est une manière de...
Si je m'en fie à la quatrième de couverture pour l'instant. Je vais d'abord regarder les 3 livres et puis ensuite vous nous direz de quoi il s'agit. Donc, Crépuscule du théorique, point d'interrogation chez Encre Marine, de la série à l'éthos. Donc ça, c'est aux presses universitaires de Paris-Ouest. Et enfin, au PUF, Philosophie française et philosophie analytique, au XXe siècle. Alors là, on est dans 3 domaines complètement différents à chaque fois.
D'une certaine façon, c'est toujours la même chose.
Et alors, c'est quoi cette chose ?
C'est mon projet philosophique. C'est la tentative de construire une espèce de philosophie de la culture qui garde le génie de la tradition continentale, utilise comme ressource le développement de la philosophie analytique et tire parti du frisson lévinassien. Voilà une manière de résumer les choses.
Quelle synthèse ! Vous savez qu'on a 50 minutes de discussion quand même, donc j'espère que vous allez nous en dire un peu plus.
Selon la possibilité que vous m'en donnerez.
Mais... Ah mais alors là, pour le coup, en plus, pour cette émission en particulier, comme je viens de vous découvrir, si j'ose dire, et que je n'ai pas lu vos livres, c'est à vous de nous donner envie de les lire. Alors moi, le premier, le Crépuscule du théorique m'intéresse parce que on a l'impression que c'est un constat par rapport à la philosophie actuelle, comme si le théorique n'était plus en vogue, était connaissait un crépuscule, c'est comme
Alors,
ça que je comprends.
Ce qui est important, c'est le point d'interrogation.
Ouais.
Il y a 2 manières de présenter le livre. La première, c'est de dire que, par jeu, je voulais essayer de refaire la condition postmoderne de Jean-François Lyotard. bon, qui est quand même mon maître originaire, celui dont j'étais proche et qui m'a conduit dans la philosophie. Ça, c'est une manière de le présenter. Mais l'autre façon de le dire, c'est que je voulais essayer de suggérer aux gens qu'on pouvait s'inquiéter pour autre chose que ce pour quoi on s'inquiétait d'habitude. Et en gros, l'idée du livre, c'est qu'ordinairement, on s'inquiète pour l'amour, la poésie. On pense que le développement du monstre, c'est-à-dire le monde moderne dans toute son horreur, sa systématicité, sa déferlante, il va faire disparaître l'amour et la poésie. Et moi, je dis, peut-être, je n'en sais rien, au fond, c'est pas si sûr d'ailleurs, mais enfin, bon, on peut s'inquiéter et se demander si le monde va garder le théorique, si on pourrait perdre le théorique. Donc, j'essaie de susciter chez les gens une espèce de rapport amoureux à la chose, au théorique, à tel point qu'il redouterait de le perdre.
Qu'est-ce que vous appelez le théorique ?
Le théorique, c'est la faculté de l'esprit à construire des mondes dans des longues cohérences textuelles. Et donc, c'est effectivement, c'est dans la science qu'on trouve ça par excellence, et peut-être que dans la science, le lieu où on trouve ça le plus, c'est dans la mathématique. Mais c'est une fonction qui irrigue notre existence de beaucoup de façons et à beaucoup de niveaux. Il faut pas en avoir une image limitative. Et donc, est-ce qu'on va continuer à fond perdu à construire des mondes intellectuels ?
Qu'est-ce qui vous fait penser que ce théorique, ces mondes intellectuels sont en danger aujourd'hui ?
Parce que c'est le monstre, justement. C'est mon premier chapitre. J'essaie d'expliquer que tout le monde a peur pour ses valeurs dans le monde où nous vivons. C'est pas parce que le monde où nous vivons, il est l'adversaire de telle ou telle valeur, mais c'est plutôt parce qu'il propose quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiateté, de la vitesse, de la transformation, de la relation. Il nous engage dans quelque chose de trépidant et de suffisant, et si on se contente de s'engager dans ce trépidant et ce suffisant, on est en gros indifférent à tout ce que nous proposent les valeurs. N'importe quelle valeur, elle va être exigeante, elle va nous demander le rattachement à une tradition, elle va nous sortir de cette espèce d'immédiateté, de fonctionnement heureux dans la trépidance de l'immédiateté qui est le fait du monde.
Ce serait bien si on était dans le fonctionnement heureux. Vous pensez que c'est le cas ?
Là, je pense que ce que je défends, c'est pas le bonheur. C'est garder la grandeur des appels qu'il y a, par exemple, l'appel du théorique.
Et qu'on aurait perdu. Il y a une époque où c'était plus facile.
Ce que j'explique, mon livre est paradoxal, parce que le second chapitre s'appelle « Splendeur du théorique ».
Alors je le feuillette en vous écoutant.
Je décris à quel point il n'y a jamais eu une splendeur comparable du théorique. Que si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, il y a eu une éclosion admirable, extraordinaire, à couper le souffle, breathtaking, du théorique. Et donc, si on s'en tenait à ce constat, on pourrait dire que tout va bien. Mais en fait, non, parce que je reviens à ce que je disais auparavant, on a l'impression que c'est une sorte de miracle. Parce qu'il y a effectivement ce dynamisme du monstre.
Alors quel est ce monstre ? Vous n'arrêtez pas de parler du monstre.
Finalement, le dernier chapitre du livre montre que...
Retour du monstre, au fond, sur le monstre.
Coda, retour sur le monstre. Il montre que finalement, j'ajoute pas totalement foi à l'hypothèse du monstre. Je pense que c'est nous qui décrivons ça comme le monstre. C'est une façon commode de nous défausser de notre responsabilité. Parce que la thèse que je soutiens, c'est que le théorique va perdurer autant que nous tiendrons à lui. Que ça dépend en fait de nous, de notre faculté d'observance, de dévouement.
Donc le monstre, c'est quoi ? C'est le coupable idéal ?
Voilà, c'est notre coupable. Et finalement, ça donne... Comme on pense que c'est le monstre qui est fautif de tout, si nous n'adhérons pas à nos valeurs, c'est parce que le monstre nous a rendus autres que nous-mêmes. Et donc le monstre est lié au concept d'aliénation.
Et il a des visages, ce monstre ? Il prend quelle forme ?
Maintenant, on rentre dans les rationalisations courantes du monstre. Alors, les rationalisations courantes du monstre, j'en discute dans le troisième chapitre du livre, c'est le capitalisme, la technique et la science, justement. Et l'économie, en gros. Enfin bon, avec un rapport de quasi-synonymie entre l'économie et le capitalisme. Dans la rationalisation ordinaire. Mais justement, c'est un monstre qu'on est habitué à condamner parce qu'il y a des générations de discours qui nous ont construit comme haïssable ce monstre. Donc, se défausser sur lui de notre incapacité à garder nos valeurs, c'est facile.
Donc, le capitalisme, la technique et la science ont ceci en commun, qu'on les désigne comme étant monstrueux et nous éloignant des valeurs réelles.
La science, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui ont tendance à rattacher la science au monstre. Bon. L'exemple le plus notoire, c'est le discours heideggerien, mettons, qui explique que la science, c'est la même chose que la technique, tout ça, c'est la même chose que la métaphysique. Bon. Et tout ça, c'est la même chose que l'obturation originaire de l'être. Bon. Donc, son monstre à lui, il inclut la science. Maintenant, si on prend le marxisme, lui, il détachait la science complètement du monstre. Le monstre, c'était juste le capitalisme, et c'était même pas la technique. Mais dans l'époque actuelle, j'ai l'impression que ce qui règne, c'est une espèce de syncrétisme, une vision confuse du monstre. Mais en tout cas, c'est pas nous les coupables.
Voilà, en fait, ce que vous appelez monstre, c'est juste une manière de désigner un coupable qui ne serait pas nous et qu'on peut affubler de tous les noms possibles.
Mais en même temps, il faudrait, là, comme je le dis, on a l'impression que c'est les autres que je fustige, mais tout le monde fait ça. On vit dans la perception du monstre, c'est presque inévitable. Bon, et je prends un exemple dans le premier chapitre du livre où je parle de la détérioration des cafés parisiens. Et là, le discours que je tiens, qui est un discours de décadence et de perception des méfaits du monstre, ça, c'est presque le mien.
C'est presque le vôtre. Qu'est-ce que s'est-il passé dans les cafés parisiens pour qu'ils soient si décadents?
Oui, alors là, on ne fait pas bien parce qu'on ne devrait pas en parler maintenant, mais bon, c'est...
Ah, mais alors moi, je ne suis aucun ordre. Si vous avez un ordre en tête, moi, pour le coup, je ne le connais pas.
Non, très bien. Mais bon, je peux en parler, oui. L'idée, c'est que... il y a une tradition du café à Paris, c'est un lieu où on traîne, c'est un lieu multifonction, où on rencontre des gens, où on refait le monde, où on passe du temps gratuit, et en fait, la seule façon de meubler ce temps, c'est d'être les uns avec les autres. Bon. Et ça suppose que ce soit juste des cafés et pas des restaurants. Et il y avait toutes sortes de cafés de cette espèce qui étaient vraiment des cafés, et en fait, le modèle économique n'est pas super viable, et ce qu'on constate dans Paris, c'est que sans arrêt, un café, il y a un moment où il y a des travaux, et après, ce qui apparaît, c'est un autre genre de truc. C'est quelque chose qui est centré sur le chiffre d'affaires qu'on peut faire à l'heure du déjeuner. Les garçons vous parlent autrement. Bon, je décris ça complètement dans le livre.
Et j'ai l'impression, puisque vous êtes venu comme chaque invité mystère avec des extraits à écouter, qu'un des extraits peut vous aider à développer cette idée-là. C'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'on en parle.
C'était comme ça que c'était prévu.
On l'écoute.
Ok.
Un blanc sec, arrosé. Pas très gai comme lui. Non, c'est triste. Mais je ne suis pas responsable. Bon, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait. Et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais. Oui, moi, c'est bâté, c'est de la blague. Après tout, tout est beau. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Si, après tout, les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes, les hommes sont des hommes, et la vie, c'est la vie.
Alors je reconnais la voix d'Anna Karina, j'en déduis que c'est sans doute un film de Godard. En revanche, j'ai du mal à faire le lien entre ce qu'on disait sur le théorique, le monstre, et l'esthétique de la discussion de café dont on vient d'entendre un extrait. Jean-Michel Salansky, aidez-moi.
C'est-à-dire, c'est le café de Godard, donc effectivement c'est très particulier.
C'est forcément théorique, ça c'est vrai.
Il y a un truc, c'est qu'en général, je pense, d'ailleurs c'est une chose que disait Lyotard, le social que montre Godard est toujours du faux social, c'est toujours du social d'opérette. Et donc ça s'applique au café en particulier. Maintenant, si on avait l'image, sans doute ce serait un peu
différent.
Décrivez-nous
alors.
Non, je l'ai pas en mémoire. Je pense que si on avait l'image, on capterait quelque chose de l'atmosphère du café, parce qu'il exploite quand même un élément qui est un véritable élément de l'éthos du café, disons, qui est qu'on a des discussions étrangement profondes dans les cafés. Dans De la série à l'éthos, le petit livre dont on n'a pas encore parlé, qui est un livre qui est issu d'une conférence donnée l'an dernier où je décris tout mon itinéraire intellectuel. Il y a une section qui s'appelle Prodrome et je raconte les choses que j'ai pu faire comme tout jeune homme, comme taupin en fait, et que je peux considérer maintenant comme des esquisses de ma philosophie actuelle. Et un des trucs que je raconte, c'est l'écriture d'un manifeste immenséiste avec un copain dans un café. À cette époque-là. Donc on peut rapprocher ça de la discussion entre Anna Karina et son amie au café chez Godard. Le café est un endroit où on se laisse aller à des généralités. On n'oserait peut-être pas la même chose ailleurs. Bon, c'est un aspect. Hein. Maintenant, moi, le café, il intervient souvent dans ce que j'écris parce que c'est un lieu important. Je pense que moi, ce qui importe pour moi, c'est que c'est un lieu de la subjectivité désarmée. Et le fait qu'on théorise, c'est peut-être, ça correspond peut-être à ça. C'est un lieu où on fait des choses un peu ridicules. Moi, j'ai toujours eu... J'ai un rapport positif à la capacité de ridicule de l'être humain. Je pense que la philosophie devrait être proche de ça, au lieu d'essayer de composer des postures avantageuses, finalement. Bon. Et donc, je parle du café en beaucoup d'occasions. Donc là, par exemple, dans Crépuscule du théorique, pour expliquer le monstre. Donc la décadence du café parisien est une manière de faire comprendre la perception qu'on a de la perte de nos valeurs. Et donc, on a l'impression de perdre la valeur du café. Pourtant, c'est pas une valeur très officielle, la valeur du café. Mais le monstre nous fait peur. Il nous donne à penser que tout peut être perdu. Tout ce qui est dans nos valeurs.
Mais la décadence du café parisien, c'est un constat que vous faites, ou alors vous le décelez comme étant un visage que prend le monstre?
C'est-à-dire, les peurs qu'on a par rapport au monstre sont pas dénuées de fondement réel. Les cafés parisiens disparaissent vraiment.
Ah oui, vous pensez, d'accord.
Ça, c'est pas faux. Des cafés au sens que j'ai connu, moi qui suis suffisamment vieux, il y en a encore, mais plus tellement. Bon. Donc il y a un vrai processus. J'évoque la disparition de la faculté de calculer à cause des calculatrices des ordinateurs. C'est quelque chose de relativement observable. Maintenant, si on faisait des stats sérieuses, en même temps, il y a de plus en plus de gens qui font des études très poussées, donc ça compenserait peut-être. Donc il y a des choses. Il y a certaines décadences que les gens évoquent avec un certain nombre de bons arguments. Et je pense qu'il y a une raison d'être à toutes ces décadences, c'est que on n'est pas dans un monde qui, par lui-même, s'occupe des valeurs. Les valeurs ne peuvent subsister qu'autant que, dans ce monde même, nous faisons des efforts spécifiques pour les conserver. Et sinon, on est dans un monde, et peut-être que c'est très bien à beaucoup d'égards, qui ne gère pas les valeurs pour nous.
Oui, il reste à savoir s'il y a déjà eu un monde qui, comme vous dites, gérait mieux les valeurs ou pas, d'ailleurs.
Quand on vit en France, on a tous l'idée d'un monde plus de la France colbertiste, la France gaulliste des années 60, mettons, où on a l'impression que l'État est en même temps le garant de toutes les valeurs et qu'il les sanctifie, qu'il les encourage, etc. Et ça joue un rôle par rapport à ce dont je discute dans le Crépuscule du théorique.
Et justement, comme vous évoquiez l'autre livre de la série à l'éthos, alors celui-là on trouve aux presses universitaires de Paris-Ouest, vous dites que c'est une conférence qui retraçait votre parcours intellectuel.
Oui.
Et donc quand vous parlez de parcours intellectuel, c'est de la série à l'éthos, qui est assez énigmatique.
Oui, parce que mes tout premiers travaux, quand j'ai écrit des articles que j'ai publiés dans Critique pour la plupart dans les années 70, c'était très en liaison avec Jean-François Lyotard, et le point autour duquel ça tournait, c'était la série. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait des façons systématiques de produire des régressions à l'infini, des séries illimitées. Et bon, c'est là que je voyais une espèce de fonction d'ouverture qui nous était donnée à la fois par la logique et le langage, et qui était ce à quoi je m'attachais. Bon. Et aujourd'hui, la philosophie que je soutiens, ça s'appelle l'éthanalyse. Et l'éthanalyse décrit la culture dans sa dispersion.
L'éthanalyse, E-T-H-A.
E-T-H.
Un mot, éthanalyse.
Comme psychanalyse, mais avec éthos à la place de psyché, si vous voulez.
Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi l'éthanalyse?
C'est l'analyse des éthos. Alors, les éthos, c'est des mondes en plus du monde réel. Et c'est les mondes qui sont importants pour notre culture. Et qu'est-ce que c'est les mondes qui sont importants pour notre culture? C'est tout l'effort d'observance qui se dispose autour de l'appel qui est porté par un mot. Il y a un mot que j'appelle le sollicitant, qui est porteur d'un appel. Et en fait, dans cet appel, on entend des prescriptions et on essaye de se comporter d'une façon qui est à la hauteur de cet appel en observant ces prescriptions. Et chaque fois qu'il y a un phénomène de ce type-là, il y a un éthos. Alors mon exemple préféré, c'est l'éthos de l'amour. J'explique que le mot amour fonctionne pas comme un terme conceptuel, comme un nom commun au sens de la grammaire, c'est-à-dire désignant une classe d'objets, mais que le mot amour dans le langage, on l'emploie pour signaler qu'il y a un enjeu de l'amour et qu'on essaye de réaliser des relations amoureuses qui soient à la hauteur de l'amour. Et donc dans Territoire du sens, qui était le premier livre où j'ai développé l'éthanalyse, j'essaie de montrer qu'en fait il y a 7 prescriptions qu'on essaye de suivre pour autant qu'on essaye d'avoir des relations entre nous qui soient à la hauteur de l'amour. Voilà un exemple d'un éthos. Alors c'est pareil, l'amour pourrait disparaître. Qu'est-ce qui fait qu'il ne disparaît pas? C'est qu'on continue de se relier à ces prescriptions, même pas forcément qu'on les observe. On peut être très déficient dans notre manière de couvrir les prescriptions de l'éthos de l'amour, mais on continue à essayer. C'est ça qui fait que l'éthos perdure historiquement. Mais il y a des dystopies qui ont fait l'hypothèse que ça pourrait disparaître. Là, il y en a une qui est très célèbre, qui est Le Meilleur des Mondes. Exactement ce qui se passe dans Le Meilleur des Mondes, c'est ça. C'est que plus personne ne tente de réaliser une relation amoureuse au sens traditionnel.
Comme si un phénomène qui paraît aussi naturel et spontané que l'amour était en réalité tributaire d'une forme de volonté ou de croyance ou de respect de certaines prescriptions, c'est ça ?
C'est ni volonté ni croyance, c'est entendre l'appel.
L'appel.
Ce que j'essaie de faire entendre dans la plupart de mes livres, c'est qu'il y a une grandeur de l'hétéronomie, il y a une grandeur de notre capacité d'entendre des obligations.
Et c'est qu'ancien, là, comme perspective.
On peut dire que Kant est une sorte de prédécesseur.
Même si l'hétéronomie, pour lui, est au contraire un sacrilège. Mais...
C'est-à-dire que ce qui nous donne à penser ça, c'est qu'il définit la moralité par l'impératif catégorique. Donc on a l'impression qu'il donne à l'impératif un rôle essentiel. Maintenant, vous savez bien que, en fait, pour lui, c'est l'autonomie elle-même, c'est la liberté elle-même qui nous appelle. Donc ça se renverse quand même pour lui. Donc je ne sais pas si Kant vraiment... entrait dans ce que j'essaie de faire partager, qui est l'idée que si on veut des valeurs, il faut que des choses fonctionnent comme obligation pour nous. Il faut qu'on essaye de suivre des prescriptions par lesquelles on reste branché sur un enjeu, à la hauteur d'un enjeu. Et si on abandonne ça, il n'y a plus rien de grand pour nous.
Alors on va écouter un deuxième extrait que vous avez apporté, Jean-Michel Salonski.
Pourquoi la philosophie continentale ?
Parce que... Écoutez, la philosophie continentale aborde des problèmes bien plus excitants et plus personnels que la tradition analytique. Les existentialistes cherchaient non pas seulement ce qu'une chose veut dire, mais ce qu'elle veut dire pour moi.
Thèse. Une phrase, la plus ordinaire, est constituée selon un groupe de règles, son régime. Il y a plusieurs régimes de phrases. Raisonner, connaître, décrire, raconter, interroger, montrer, ordonner, etc. Deux phrases de régime hétérogène ne sont pas traduisibles l'une dans l'autre. Elles peuvent être enchaînées l'une à l'autre selon une fin fixée par un genre de discours. Par exemple, dialoguer enchaîne une ostension, montrer, ou une définition, décrire, sur une interrogation. L'enjeu étant que les deux parties tombent d'accord sur le sens d'un référent. Ces genres de discours fournissent des règles d'enchaînement de phrases hétérogènes, règles qui sont propres à atteindre des buts. Savoir, enseigner, être juste, séduire, justifier, évaluer, émouvoir, contrôler. Il n'y a pas de langage en général, sauf comme objet d'une idée.
De qui est ce texte qu'on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin? Lui, je l'ai reconnu, mais alors le contenu du texte, assez difficile, je dois dire, je ne sais pas de qui il est.
C'est un petit paragraphe au début de Le Différent, l'ouvrage de Jean-François Lyotard, qui rassemble un peu rapidement la vision du langage et en fait de la vie sociale qui est celle de Lyotard dans Le Différent.
Alors dites-nous, expliquez-nous ce texte assez obscur.
Je pense que j'ai envie de remonter au précédent, qui était un petit extrait de L'homme irrationnel.
Ah oui, juste avant de le texte, de Woody Allen. J'ai reconnu la voix de Joachim Phoenix en français.
Où on voit Joachim Phoenix dans son étrange fonction de prof de philo dans une fac américaine, où il va être gourou, séducteur et finalement meurtrier. On le voit évoquer le schisme entre philosophie continentale et philosophie analytique. Alors, il l'évoque d'une manière assez amusante parce que il donne comme avantage de la philosophie continentale le fait qu'elle traite des problèmes qui bouleversent les gens, des problèmes qui sont lourds pour les existences. Et je me souviens que Kevin Mulligan, qui est un philosophe analytique notoire et qui est un vieil ami, dans un article qu'il a écrit il y a très longtemps, reconnaissait ça. Après, dans un article où il fustigeait le régime continental et sa stupide survivance, il reconnaissait quand même ça. Il essayait de se demander comment la philosophie analytique pourrait rejoindre le traitement de ces questions lourdes pour l'existence. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que, en fait, un point de départ, c'est que le schisme est une souffrance insupportable pour moi. Pourquoi ?
Entre philosophie continentale et philosophie analytique ?
Prenons les choses à ce niveau-là, simplement.
Ouais.
C'est insupportable. Pourquoi ? Parce que je vois sa conséquence, qui est une conséquence de mépris. C'est-à-dire qu'une fois que il y a deux manières de fonctionner comme intellectuel et comme philosophe qui sont maintenant bien installées. Il y a des écoles du mérite, du prestige, et donc il y a des gens qui sont reconnus d'un côté, des gens qui sont reconnus de l'autre. Et tant qu'on ne fait rien par rapport à l'état de choses, eh ben chacun qui est une gloire dans son champ est ridicule de l'autre côté. Bon, et c'est une espèce de blessure. Pour la pensée, et puis même une sorte de blessure éthique, de mon point de vue, que je n'accepte pas. Alors, le problème, il est discuté de façon récurrente, mais généralement, on s'en tient à cette opposition, philosophie continentale, philosophie analytique. Et le livre que je publie chez PUF, il prend un autre angle, Il prend l'angle philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle. Alors, pourquoi s'intéresser à la philosophie française là-dedans? Ben, en fait, mon opération, c'est que je redéfinis la philosophie continentale au sens strict. Je dis que la philosophie continentale au sens strict, c'est le segment allemand, c'est la séquence allemande. C'est le truc qui se déroule de Kant à Heidegger, en gros. Et donc ça, c'est une philosophie qui déploie des théories générales de l'être et de la vérité, conception transcendantale, conception phénoménologique. Bon, c'est une philosophie méthodologique. C'est pas la même que la philosophie analytique dont on dispose aujourd'hui, mais elle est aussi méthodologique que la philosophie analytique. Et puis, entre les deux, en quelque sorte, je situe la philosophie française, qu'elle-même j'analyse préférentiellement à partir de la petite période des années 60-70, c'est-à-dire des auteurs dits subversifs, ceux que j'appelle moi les auteurs de la French Thought, qui sont essentiellement Derrida, Deleuze, Foucault et Lyotard. Et donc c'est des auteurs qui font une philosophie qu'on a beaucoup de mal à caractériser, parce que justement elle n'a pas de définition méthodologique, mais elle essaye de réussir quelque chose. J'essaie de décrire dans le livre ses qualités fondamentales. Bon. Et à partir de la perception des auteurs de cette période, j'essaie de concevoir la philosophie française du XXe comme une philosophie qui a reçu la philosophie continentale et qui a un peu reçu la philosophie analytique aussi. Et donc je propose qu'on réanalyse tout ce qui s'est fait en France, non plus sans arrêt en le rapportant aux précédents kantiens, husserliens, hegeliens, heideggeriens, mais en regardant qu'est-ce que ça donne comparé à ce qui s'est fait en parallèle dans le monde de la philosophie analytique. Et un de mes arguments, c'est qu'au fond, cette philosophie subversive des années 60-70, elle a voulu rompre avec la philosophie traditionnelle, exactement comme Frege et Russell. Et j'énumère 4 points de rapprochement qui montrent que cette entreprise était, dans sa définition de départ, assez similaire. Mais aussi, je concède qu'à l'arrivée, c'est au contraire l'autre absolu. Et dans le monde entier, il y a des profs de philosophie analytique qui consacrent des quarts d'heure pour se moquer de Derrida, par exemple. Hein. C'est ça le paradoxe. C'est que un petit épisode français qui, au fond, était très aligné sur le même genre d'objectif que la philosophie analytique, est devenu, au bout du compte, son opposé le plus radical. C'est une stimulation pour essayer de relire tout ce qui s'est passé en France au XXe, à quoi je m'intéresse, sur le mode de cette confrontation. Et alors, à la fin de l'ouvrage, je propose ma perspective à moi pour une nouvelle philosophie, ce que je vous ai dit au début de notre entretien, c'est-à-dire une philosophie qui comprennent le génie de la tradition continentale, parce qu'à mon avis, il y a un génie de la tradition continentale qui est incarné par Kant principalement pour moi, hein, qui est le génie du rationalisme ouvert. C'est-à-dire, c'est une façon de valider le rationalisme, de valider la science, mais d'essayer de penser cette hyper-validité de l'entreprise scientifique de telle manière qu'on soit capable de célébrer aussi toutes les autres entreprises dans les affaires humaines. Donc c'est le rationalisme ouvert. Bon. Donc ça, c'est la grandeur de la philosophie continentale. Il y a une grandeur de la philosophie analytique, qui est d'abord qu'elle reprend ce projet, au départ, de la célébration du rationalisme. On peut lui reprocher d'avoir eu tendance, dans un certain nombre de ses manifestations, au moins, à perdre sur l'ouverture, qui était celle de l'entreprise allemande. Hein. Mais quand même, elle reprend le projet. Et deuxièmement, elle nous apporte quelque chose qui est probablement très appréciable, que j'apprécie moi en tout cas, qui est le déflationnisme. C'est-à-dire que les philosophes analytiques, ils nous apprennent à ne pas considérer que les énoncés philosophiques sont des énoncés hors monde, vénérables, donc on peut à peine toucher, qu'on peut à peine discuter, on peut pas leur donner d'exemple, etc. Non, il y a des énoncés qui ont des prétentions universelles, et si on a un contre-exemple, ils se cassent la gueule, parce que c'est comme ça que la logique est foutue. Bon. Et là, ils apportent quelque chose de considérable, cette espèce de déflation.
Et vous pensez qu'il y a un sens vraiment à parler de spécificité de la philosophie française? Parce que finalement, en essayant de trouver un point d'ancrage où l'apport égal d'un côté de la philosophie continentale, de l'autre analytique au sein de la philosophie française, vous reconduisez aussi cette distinction entre continentale et analytique. C'est comme si on s'en sortait pas vraiment.
Oui, non, mais alors il s'agit pas du tout de s'en sortir. Hein.
Ah bon, d'accord.
Non, au contraire. Mais justement, il s'agit de vivre de telle manière.
Parce que vous disiez que vous souffriez de ce schisme.
Oui, mais il faudrait que le schisme soit le même que le bon. Si un hegelien rencontre un spinoziste, ils vont pas être d'accord sur quoi que ce soit, mais ils sont capables de reconnaître la grande intelligence de chacun de l'autre. Bon, et il faut arriver au même résultat avec toutes les traditions actuelles de la philosophie. C'est ça mon but. Je veux absolument pas les projeter les unes sur les autres. Je veux garder, au contraire, j'ajoute de la distance. Il n'y a pas simplement le continental, l'analytique, il y a le français aussi. Donc je veux absolument pas faire coïncider aucun des trois avec aucun des deux autres.
« C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. J'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud. Rien qu'un petit flash au 5 o'clock, j'paie toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où aujourd'hui c'est une actualité mystère que je vous propose. Et oui, une fois par mois, vous le savez, je reçois un invité mystère, c'est-à-dire dont je découvre l'identité au moment d'entrer en studio. Et tout à l'heure, c'est Jean-Michel Salansky que j'ai découvert m'attendant en studio. Jean-Michel Salansky, qui est l'auteur de 3 ouvrages qui paraissent en ce moment à peu près en même temps. Crépuscule du théorique pour l'interrogation aux éditions Encre Marine, de la série à l'éthos aux presses universitaires de Paris Ouest, ainsi que philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle, disponible au PUF.
C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coups de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma Camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax et je cause français.
La philosophie, c'est une certaine manière d'être, pas le désir de savoir ce qui est présupposé. Pas du tout avoir la certitude première, mais au moins savoir ce qui est présupposé dans mon langage, dans mes convictions. Dans ce qui me paraît vrai, n'est-ce pas ? Voilà ce que c'est la philosophie, il me semble, en général, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de définitions de la philosophie un peu plus partielles, n'est-ce pas ? Mais qui en illustrent un côté. Ce que je viens de vous dire est une de ces déterminations. Il y en a d'autres, il y a une que j'aime beaucoup, c'est la philosophie et ce qui nous permet de parler. Parce qu'en principe, on utilise toujours des mots qui doivent s'expliquer par d'autres mots. Et les philosophes, les grands philosophes, car être philosophe, c'est toujours lire les grands philosophes. Mmh. Les grands philosophes, sont, on ne sait pas comment, ils sont arrivés au premier mot. C'est ça la spécificité de cette recherche ou de cette attitude.
La philosophie, c'est ce qui nous permet de parler. C'est Lévinas, hein, il me semble, Jean-Michel Salansky. Ça me fait penser, en l'écoutant, qu'on n'a pas rebondi sur le texte de Lyotard qu'on a entendu tout à l'heure.
Oui, j'y pense.
Alors que le lien est là, est assez commun avec la chanson de Léo Ferré sur la langue française. Finalement, il y a cet effort de définir la philosophie comme étant une tentative de trouver le bon mot ou le premier mot, dit Lévinas.
Oui, le passage là de Lévinas, c'est une espèce d'heureuse surprise pour moi, parce que au fond, il est exactement à l'endroit où j'enchaîne sur Lévinas. Par ailleurs, moi, j'ai une révérence illimitée à Lévinas pour la façon dont il a fait entendre la chose éthique dans la philosophie, et je pense que ça reste le plus important pour lui et pour nous. La façon dont mon travail se branche sur Lévinas, c'est que je tire de Lévinas le thème du sens. J'estime que Lévinas nous donne de nouvelles ressources pour comprendre ce que c'est que le faire sens entre nous et comment nous partageons des sens. Et donc là, la définition qu'il donne de la philosophie, que dans les deux aspects qu'on a entendus, soit la philosophie c'est se soucier des présupposés, soit la philosophie c'est chercher la ressource qui nous permet de parler, hein, avec une évocation du premier mot, où le premier mot c'est pas le mot de l'origine, hein, c'est pas la même chose que Rosenzweig, hein, bon, le premier mot c'est simplement chacune de nos prises de parole avec la gravité de tout ce qu'il y a derrière et qui nous permet de parler. Bon, et ce qu'il y a derrière, ce qui nous permet de parler justement, c'est la dimension du sens, hein. Donc moi je dirais que Lévinas, il nous a ouvert la voie pour aborder toutes les questions du sens différemment. Et bon, l'éthanalyse, c'est exactement une tentative de proposer une description de nos partages du sens qui est lévinassienne dans son inspiration. Hein. Puisque la circonstance principale du sens, c'est qu'un message m'atteint et il me demande quelque chose et j'ai à le relancer comme il demande à l'être. C'est ça la philosophie du sens que j'ai proposée en 2001 dans mon livre « Sens et philosophie du sens » paru chez Desclée de Brouwer. Et donc ça, c'est quelque chose que je reçois de Lévinas et qui montre qu'au fond, on a besoin de l'éthique pour le sens. Si on n'était pas capable d'être sensible au visage d'autrui comme impératif, comme commande et comme demande, on ne pourrait pas recevoir un message comme nous demandant à être compris et relancé comme il le demande.
On retrouve l'importance de l'appel de l'extérieur dont voilà. Vous parliez tout à l'heure.
Donc j'essaie de faire une description de la culture en montrant qu'on partage des appels. Et c'est ça c'est comme ça qu'il y a des régions du sens et on partage les sens qui sont autour de ces appels.
Mais ce sens ne vient pas de nulle part. Le sens, nous le construisons également. Nous sommes autant l'auteur que les destinataires.
Justement, ce qu'explique Lévinas, c'est que si je m'installe dans la description de l'origine, de pourquoi, comment ça vient, quelle est la genèse, comment j'ai construit, comment j'ai produit, si je cherche des causes dans l'être, etc., il n'y a plus de sens. À ce moment-là, je rentre dans ce qu'il appelle l'ilia, justement, c'est-à-dire que je décris l'être dans son perpétuel remuement. L'apport de Lévinas, c'est justement ça, c'est que pour qu'on se trouve dans l'élément du sens, pour qu'il y ait dû faire sens pour nous, il faut qu'on n'ait pas l'entrée explicative. Si je me contente de décrire ce que je dis comme étant le résultat de ma construction, j'ai construit ce que j'ai construit, j'aurais pu construire autre chose. Il faut que je reconstruise tout de suite autre chose pour être de nouveau dans la vivacité du construire. Et donc, c'est l'absurde. Donc, en revanche, si j'aligne des comportements pour répondre à un appel et satisfaire à des exigences, tout au long d'une vie, je peux faire ça. Et je suis dans l'élément du sens.
Mais ça coule pas de source, ce que vous dites. Enfin, vous le présentez comme évident, mais enfin, c'est une conception du sens qui identifie le sens comme étant secondaire ou, disons, éloigné du raisonnement de l'homme, qui l'identifie comme ayant sa source ailleurs que chez l'homme lui-même. Et c'est donc, on pourrait aller vers une analyse qui serait quasiment mystique, là, de ce que vous dites.
Je pense que la transcendance est la propriété la plus immanente de l'humanité. C'est ça aussi l'enseignement de Lévinas, qui est que ce qui est le plus proprement humain, c'est qu'on éprouve ce qui nous arrive sous l'angle de l'obligation et de la demande. Et c'est chaque fois qu'on arrive à éprouver ce qui nous arrive sous l'angle de l'obligation et de la demande, qu'on n'est pas juste dans le fonctionnement de notre biologie ou des mécanismes de notre société ou de l'électrodynamique quantique, mais on est dans l'élément du sens.
Et donc de la morale. Parce que vous dites que la morale la précède le théorique.
Justement, dans les partages du sens, j'explique qu'il y a des appels qui ne sont pas tellement moraux.
Parce que vous parlez d'obligation, c'est pour ça, là, pour le coup, on est dans la morale.
Oui, mais l'idée des éthos de l'éthanalyse, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent pour nous comme obligation, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'archi-obligation. J'explique qu'il y a un archi-éthos qui est l'archi-éthos de l'éthique, et ça, c'est l'obligation que j'éprouve devant le visage. La responsabilité pour autrui au sens de Lévinas. Bon. Et à part ça, il y a les obligations des éthos. Par exemple, je veux être un bon amoureux. Donc, je veux satisfaire les 7 prescriptions de l'éthos de l'amour, selon moi. Et c'est pas du tout vrai que, en suivant l'obligation propre à l'amoureux, je vais forcément coïncider avec l'exigence de l'éthique. Au contraire, on a toute une tradition qui nous dit que c'est pas le cas. Hein. Comme le fameux « en amour, tout est permis », par exemple. Donc, dans Partage du sens, là, mon traité majeur, qui est paru en 2014, je présente un éthos de la vérité. Alors, c'est l'éthos de la vérité, c'est l'ensemble des comportements qu'on fait pour être à la hauteur de la vérité. La vérité est une exigence qui travaille l'humanité. Bon. Et c'est une très grande chose, et elle est très importante pour tout le monde, en particulier pour les philosophes, mais c'est absolument pas sûr que, du simple fait que je suis un bon serviteur de l'éthos de la vérité, je suis moralement bon.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, d'un côté, le constat que vous faites d'une perte, en tout cas la peur que vous avez de la dissolution du théorique, et de l'autre la reconnaissance du sens comme étant indissociable d'une forme de transcendance et qui semble, du coup, reléguer le théorique au second plan?
La transcendance n'est pas ontologique, donc elle n'est pas une garantie. Donc justement, si on a compris qu'il y a un éthos de la vérité, chaque éthos est une tradition contingente. Donc le livre « Le meilleur des mondes », on peut le faire pour n'importe quel éthos. Donc on peut perdre l'éthos de la vérité. Dans Crépuscule du théorique, à la fin, j'essaie de décrire un peu comment on pourrait imaginer qu'on laisse tomber non pas la vérité, mais le théorique. Bon. La transcendance, c'est certainement pas une garantie. La transcendance, elle est sans pouvoir, elle n'est rien, elle est non ontologique.
Non, mais est-ce qu'elle ne rend pas vaine toute forme de théorie? Puisque le sens vient de l'extérieur. Parce que ça avait dit, dès lors que l'on pense le sens comme étant le résultat d'une construction humaine, ça devient absurde. C'est ce que fait la théorie.
C'est pas le sens qui vient de l'extérieur. C'est l'appel du sens. Le sens comme appel. Alors après, un des appels qu'on peut entendre, c'est l'appel de la vérité. Et cet appel de la vérité, il nous engage dans la théorie. Bon, et d'autre part, on peut dire qu'il y a une fonction du langage là-dedans. Que Lévinas décrit toujours le langage, pas simplement comme un appareil qui nous permet de dire le monde, mais comme quelque chose qui permet l'interpellation. Et donc on peut dire qu'il y a un minimum de transcendance qui semble donné dans le langage. Mais bon, c'est des formulations qui sont excessives et insupportables à peine on les a émises. Hein. Rien n'est donné dans cet ordre. La transcendance ne peut pas être donnée précisément parce qu'elle est anontologique. Mais disons que l'expérience de l'interpellation dans le dialogue et l'échange de langage est une espèce de minimum sur lequel on peut rebondir par rapport à cette idée de la transcendance. Bon, si on a la transcendance, on peut avoir tous les sens liés à tous les éthos. On peut avoir en particulier toute la splendeur du théorique. Mais sans transcendance, je vois pas comment.
Mais qu'est-ce que ça veut dire si on a la transcendance? On fait comment pour avoir la transcendance?
Non, c'est adhérer, en fait.
C'est-à-dire adhérer à quoi?
Ça veut dire entrer dans l'idée d'une vie qui est une vie de dette et de réponse aux obligations.
Donc une vie éthique, hautement éthique.
Regardez l'éthos de l'amour. Les éthos présentent une démultiplication des systèmes d'obligations, ce qui fait que les systèmes d'obligations ne se réduisent pas à l'obligation éthique. Il y a l'archi-éthos qui est l'obligation éthique, mais après chacun des éthos y présente une obligation spécifique, liée à un appel spécifique qui est une composante de la culture.
J'ai l'impression que vous décrivez un système qui pour être compris et entier doit être entièrement réuni sous l'idée, vous appelez ça une transcendance, comme s'il devait y avoir un dieu d'où émaneraient ces obligations.
Alors, Dieu est le contraire de la transcendance.
Éthique. D'accord.
C'est encore une des choses que Lévinas nous a expliqué. S'il y a Dieu, il n'y a plus de transcendance. C'est pour ça que dans mon livre « L'humanité de l'homme », il y a un chapitre où j'ai expliqué « Si Dieu existe, tout est permis ». Parce qu'il n'y a plus d'obligation si Dieu existe. Parce que Dieu est une force suprême qui courbe toute volonté, qui a le pouvoir de courber toute volonté. Et c'est le chef de l'être. Donc tout ce qu'on peut faire par rapport au chef de l'être, ça se justifie forcément de manière ontologique. La transcendance est une transcendance sans pouvoir. Le visage d'autrui est sans pouvoir, il compte pas dans l'être. Au moment où j'entends autrui comme demande, comme détresse, comme auteur et comme enseignement, il n'a aucune éminence, aucun pouvoir, aucune force. Bon. Donc, au contraire, pour entrer dans la transcendance, faut pas qu'il y ait de Dieu.
Il nous reste un extrait à découvrir ensemble, écoutons-le.
Soit la fonction f de x appartenant à R plus P de x égale E puissance moins x sinus x. L'étude sera faite d'abord entre 0 et 2 pi. Donc f prime de x égale E moins x. Facteur de cosinus x moins sinus x. D'où la dérivée U. Là. U grand V prime égale U prime V plus U V prime. Je trace le cercle trigonométrique. Cette dérivée s'annule pour les valeurs de x égale pi sur 4. Nous en déduisons le tableau des variations suivant. Petit f égale cosinus de 2. E 2 sur racine carrée de 2. X croissant, décroissant, croissant, décroissant. Grand M égale F multiplié par sinus 2, pi sur 4. C'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, bon. Alors, AF égale 1 sur 2 égale moins 2, bon. N'oubliez pas la deuxième partie du propos, P sur 4 et 3, P sur 4, partie assurée. Et petit F égale, n'oubliez pas, A ici vaut donc A, B, U, sinus de X plus 2. Tout le monde a bien compris?
Pardon monsieur, est-ce bien intégrable au sens de Neyman dans l'intervalle AB?
Absolument, oui.
Bien, monsieur.
Mesdemoiselles, vous avez 30 minutes pour me démontrer la proposition inverse à la précédente. Merci.
En tant que philosophe de profession, comment ai-je abordé les mathématiques? Non pas dans leur technique, bien sûr, mais dans leur fonction, dans le savoir. Bien, il y a un problème qui, moi, m'a toujours tourmenté, qui n'a pas fini, d'ailleurs. C'est le problème de la relation entre les énoncés, les propositions susceptibles d'être vraies ou fausses, mais vraies ou fausses d'une façon invariante, temporellement invariante, et l'exigence de déploiement et de développement historique du contenu que ces énoncés transmettent. Donc, ce qui me préoccupait, c'était le problème du rapport entre l'histoire et le vrai.
Qui venons-nous d'entendre, Jean-Michel Salanski?
Jean Toussaint de Santy. Par ailleurs, Lévinas, Lyotard et de Santy, c'est trois personnes dont je me sens un peu l'héritier, qui sont essentielles dans ma formation, donc ça donne une raison de plus pour qu'on l'entende. Sinon, le thème, c'est les mathématiques. Hein. Et donc, pour Renaud, avec ce qu'on disait juste avant, précisément, dans le théorique le plus pur, c'est-à-dire le théorique de la mathématique, c'est un lieu par excellence où les gens rencontrent l'infini. Et donc l'infini, c'est une des définitions possibles de la transcendance. On a la notion de quelque chose qu'on appelle l'infini et qui, dans la définition même de la notion qu'on se donne, comporte l'impossibilité d'accéder à tout ce qu'il contient, à tout ce qu'il enveloppe. Bon, au-delà de ça, les mathématiques ont pour moi le sens, c'est pas simplement le cas par excellence du théorique, reconnu comme tel dans toute l'histoire de la philosophie, c'est aussi un émerveillement. Les mathématiques ont été ma formation d'origine, ma première formation, et longtemps, à vrai dire, mon métier. Comme beaucoup de gens de ma génération, mais ça se prolonge dans les générations successives, quand on découvre vraiment le truc extraordinaire qu'est la littérature fabuleuse de la mathématique contemporaine, il y a un vertige, il y a un émerveillement, et on aurait envie de faire partager d'ailleurs tout de suite, parce qu'il y a... Il y a eu une espèce de génialité de l'esprit, de pluralité des situations, des configurations, des mondes. Et puis, si pluriels que soient les mondes qu'on introduit, il y a toujours des nouvelles perspectives qui embrassent tout et retraversent tout de manière structurale. C'est une symphonie, c'est une chose incroyable. Bon, donc il y a une espèce de choc, quoi, qui se répercute dans tout ce que j'écris. Et donc, dans Crépuscule du théorique, dans la partie centrale où je décris la splendeur du théorique, je commence par un long développement sur les mathématiques au cours du XXe siècle, parce que ce déchaînement de la grandeur de la mathématique, c'est le XXe siècle quand même, hein, bon, même si ça vient de beaucoup plus loin. Donc, il y a ça. Alors, le film de Claude Zidi, avant, avec le prof qui débite à tout à l'heure une démonstration... Ça, c'est quelque chose que j'avais traité dans un autre livre que j'ai publié en 2009, qui est « Vivre avec les mathématiques », où j'étais parti de là, du fait que le visage des mathématiques, pour la plupart des gens, c'est le visage terrifiant de la castration devant un prof
un
de maths.
Un monstre, là, encore.
Hein, devant souvent. Un prof de maths qui vous dit que vous êtes nul. Mais alors, un autre genre de monstre.
Ouais.
Non
moins redoutable.
Et donc, j'ai essayé d'en vivre avec les mathématiques, de contrecarrer cette vision, en présentant, au contraire, les mathématiques comme... un lieu par excellence, justement, où apprendre la transcendance, au sens où j'en parlais tout à l'heure, où apprendre que, en suivant des règles, qui sont des règles de discours et d'écriture extrêmement strictes, donc en faisant pas n'importe quoi, c'est là qu'on accède à la plus grande merveille littéraire, à l'efflorescence littéraire la plus fabuleuse.
Littéraire, dites-vous.
Oui, c'est ce que, moi, quand j'étais prof de maths, c'est toujours le premier truc que je disais aux gens, les mathématiques sont une discipline littéraire. Bon.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Les mathématiques ne se présentent pas comme une science de la nature, comme la description d'une empiricité, mais c'est une espèce de jeu de l'objet absolument quelconque, et il y a des tas de variantes du jeu de l'objet absolument quelconque, et on en invente toujours, et puis à propos de chacune des variantes du jeu de l'objet quelconque qu'on a inventé, on développe des théories, des super-objets qui encadrent les premiers objets, et donc il y a une espèce de diversité littéraire, c'est comme si on découvrait des palais, des histoires, hein. Il y a à la fois des palais et des narrations, bon. Donc c'est vraiment...
Une littérature oulipienne un peu.
Disons que les oulipiens ont voulu s'inspirer de ça, ils ont voulu reverser ça dans la littérature. C'est un de leurs objectifs. Mais bon, je pense que c'est une littérature tout court. Et moi, je dirais plutôt que il y a certaines grandes constructions littéraires qui font quelque chose d'un peu analogue. Je pense que la Comédie humaine de Balzac ou les Chants de Malheur de Lautréamont, mais il y a d'autres exemples. Hein. La Recherche de Proust peut-être aussi, hein, bon... C'est aussi des tentatives de construire des mondes qui ont quelque chose de superlatif, de plus riche que ce qu'on attendait, de l'ordre de la bénédiction. Bon. Alors, l'idée, c'est que la philosophie, on sait bien qu'elle est dans une alliance traditionnelle avec les mathématiques que Platon a définie. Hein. Et donc, une autre affaire toujours très importante pour moi, pour l'idée de la philosophie, c'est qu'il faut assumer la mathématique, il faut garder le lien. Bon. Alors, j'explique dans de la série à l'éthos comment moi, j'ai eu un travail de philosophie des mathématiques qui était ma manière de garder le lien, et qui avait des côtés bizarres, puisque par exemple je proposais une lecture heideggerienne de l'historicité de la mathématique, mais en même temps ça obligeait de redéfinir l'herméneutique heideggerienne d'une manière contra-heideggerienne. Bon, et donc, de même dans mon rapport à Lyotard, qui était, je vous le dis, mon maître de philosophie, celui qui m'a essentiellement formé, je voulais défendre les mathématiques contre lui, parce que je trouvais que, à l'instar de ses camarades de la French Thought, il avait toujours tendance à présenter l'ouverture, l'aventure, la création de situations, la percée, l'agencement, etc., ailleurs que dans la science et en particulier dans la mathématique, alors il me semble que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le lieu où il y a sans arrêt du nouveau et de l'invention, c'est la science, justement.
Merci en tout cas d'être venu nous partager vos mondes, votre monde, ou y en a-t-il plusieurs, je ne sais pas, Jean-Michel Salansky. En tout cas, il y a plusieurs livres de vous qui sont disponibles en ce moment, de la série Aletos, aux presses universitaires de Paris-Ouest, qui retrace donc votre parcours intellectuel de la série Aletos. On pourra comprendre maintenant ce que vous voulez dire par ces deux termes. Philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle, au PUF. Et enfin, Crépuscule du théorique, point d'interrogation, aux éditions Encre Marine. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Bonne trentaine d'années, j'ai passé 2 mois tout près du pôle, nord bien entendu. Et à vrai dire, il n'y a rien à décrire. La nature, disons qu'il n'y a aucune nature là-bas. Dans cette nouvelle d'Ivan Gontcharov, à travers la Sibérie orientale, dernière œuvre publiée de son vivant et sorte de complément des années plus tard à son grand récit de voyage La Frégate Palace, l'écrivain le confesse, de la nature il n'y a rien à en décrire et ses quelques souvenirs ne sont en fait pas grand-chose, seulement un reste de mémoire écrit à travers la brume du passé. Mais à travers la brume, il y a malgré tout quelques coups d'éclat, des bribes qui sont en fait très précises. Telles sont aussi les 2 autres nouvelles publiées dans ce recueil aux éditions de Lerne, sa réflexion morale sur la vie dans ce monde et sa petite histoire de soupe de poisson, le tout sous la forme de vignettes, de pochades, ces petites peintures figuratives rapidement exécutées. Gontcharov a donc gardé ici de son célèbre Oblomov la concision de la description psychologique, mais aussi son ironie. Les actions ne comptent pas, il n'y a pas de péripéties et de chutes ou de moralité, il y a seulement des portraits, des personnages, des natures encore un peu vivantes, presque mortes, restent de la mémoire russe. Gontcharov est certes le fondateur de la tradition réaliste russe, mais en fait la réalité ne dit rien, ne va vers rien. Comme si avec Gontcharov se disait enfin que le réel, ça ne veut rien dire, qu'il ne nous apprend rien, qu'on ne l'influence pas, ou alors qu'il n'est que caractère. Ce fonctionnaire flamboyant perdu dans la Sibérie, cet autre à qui la vodka ne permet pas seulement de vivre, mais empêche surtout de mourir, ou encore soi-même, son propre caractère, lieu d'une vie idéale où s'articulent en même temps âme, cœur et esprit, une vie loin du réel, pesant et pourtant sans consistance.
De Gontcharov, je ne connais qu'Oblomov, que j'adore, et donc j'ai très envie de lire ces
deux ouvrages. Pouvez découvrir ces 3 nouvelles, donc ce recueil s'appelle « À travers la Sibérie orientale » et puis il paraît aussi une soirée littéraire et le tout aux éditions de l'air.
Dans des très belles éditions.
Très jolies éditions.
Merci Géraldine. Et merci à tous, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à David Hume, le philosophe Hume, enquête sur l'entendement humain avec Didier Duleule. Lundi, essai sur l'art et le goût, ce sera avec Michel Malherbe. Mardi, Hume et la philosophie contemporaine en compagnie d'Éléonore Le Jallet. Et enfin, les dialogues sur la religion naturelle avec Jean-Pierre Grima. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine consacrée à l'antisémitisme, rendez-vous sur le tout nouveau site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement réécouter les émissions de votre choix, mais aussi les télécharger, les podcaster. afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le Temps des Libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Xavier Martinet.